Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 et à 4h57 dans le studio. Ça part déjà chiffon entre Céline Dacosta et Eva Rock. Tout va bien, nous sommes le mardi 4 juin 2019 et pour m'accompagner justement. Alors Céline, si vous pouviez éteindre votre portable, excusez-moi, ça serait mieux. Mais je me demande qui vous appelle à cette heure-ci à part votre amant.
Personne,
mais enfin bon, ça me paraît bizarre.
C'était enclenché tout seul.
Enfin Maurice, je ne sais pas qui c'est. Celle qui pourrait rendre une rage de dents supportable, un pédiluve paradisiaque, Céline Dacosta et Eva Rock. Eva, dont l'énergie débordante, volcanique, nous contamine littéralement chaque matin comme hier.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bonjour mesdames.
Bonjour.
Faudra mettre un peu plus de tonus aujourd'hui, Eva.
Salut tout le monde.
Salut les copains. Aujourd'hui 4 juin, c'est l'anniversaire de l'actrice américaine et ambassadrice de l'UNICEF, Angelina Jolie. Elle a 44 ans, découverte dans Une vie volée, on l'a vu dans Lara Croft, ou encore Mr. and Mrs. Smith. Mais aux yeux des amateurs, sa plus grande performance aura été sans conteste sur...
Brad Pitt.
Sur le film L'Échange, L'Échange de Clint Eastwood. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Joyeux anniversaire, un point sur la météo, Céline.
Eh bien, les orages arrivent par le nord-ouest. Pour les autres, encore pas mal de soleil et des températures très chaudes cet après-midi.
Très chaudes.
Les orages, oui.
Ah oui, moi, j'ai eu froid ce matin.
Paris.
C'est aussi un 4 juin, les amis, qu'est née la top modèle israélienne Bar Rafael. Elle souffle ses 34 bougies. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Bar, Céline, Eva?
Moscou Moule.
Bar, c'est son prénom, les filles. Bon, tant pis. Eva, une question à poser à nos auditeurs ce matin.
Une question intellectuelle.
Ah,
vous êtes prêts?
Oh là, j'ai peur.
Parce qu'un 4 juin, c'était en 1666, c'était la première représentation du misanthrope de Molière. Alors misanthrope, vous savez, c'est celui qui a une aversion pour le genre humain, qui déteste un peu l'autre.
Merci de m'apprendre le sens des mots.
Et bien vous, qu'est-ce que vous détestez chez les autres? Et vous allez voir, nos auditeurs se sont un peu lâchés.
Oui,
c'est pas mal. Sur Twitter avec le hashtag Europe 1, évidemment.
J'en profite pour vous rappeler, chers auditeurs, qu'aujourd'hui, 4 juin, c'est aussi la date limite pour déclarer ses impôts en ligne. Vous l'avez tous fait, Eva?
Vous savez, ils ont déjà trop d'argent, je ne suis pas donné.
Non, alors c'est pas optionnel, Eva. C'est pas tout à fait optionnel, je vous expliquerai. Vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, j'ai oublié, moi, de faire ma déclaration d'impôt, mais on a droit à 48 heures de plus.
Mais oui.
Oui, sur Internet. Mais enfin, bon, quand même, il faut s'y mettre aujourd'hui. Oui. Et enfin, aujourd'hui, prenez vos précautions également, prévoyez large. Il y a une grève SNCF dans une grande partie du pays, notamment les Hauts-de-France. Une grève.
Qui fait bien chier quand même.
contre la réforme ferroviaire. Allez, j'expliquais, mais bon, vous m'avez devancé. Vous écoutez. Le 5-7 intransigeant sur l'info mais qui aime s'amuser. Hier, on peut le dire, l'émission était aussi formidable que le dernier plan Tinder d'Eva.
C'était génial.
Alors, il n'y a pas de raison qu'on passe pas encore un très beau moment ce matin. Debout les copains, c'est parti.
Nous sommes le mardi 4 juin. Merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil, il est 5h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce 4 juin, c'est avec vous, Jérôme Lacroix, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
La France plébiscitée par les investisseurs étrangers l'année dernière, plus d'un millier de projets. Deuxième pays européen selon un classement dévoilé aujourd'hui, la France fait plus fort que l'Allemagne. Pas de panique si vous n'avez pu déclarer vos impôts en ligne ces dernières heures, on en parlait si vous êtes concerné par la date butard de ce soir. Défaut technique du site face à l'afflux de connexions, le ministère rallonge le délai de 48 heures, vous avez jusqu'à jeudi soir. Et puis plus aucun bleu à Roland-Garros, troisième édition consécutive, qu'aucun tricolore ne parvient à se hisser en quart de finale du Grand Chelem de tennis parisien.
Europe 1.
Les investisseurs étrangers ont proposé l'année dernière plus de 1000 projets d'implantation ou d'extension en France. 1027 exactement, voilà qui place la France au deuxième rang des pays européens les plus attractifs derrière la Grande-Bretagne, mais devant l'Allemagne qui recense une cinquantaine de projets de moins. Ce sont les conclusions d'un rapport du cabinet d'audit et financier EY réalisé en janvier. Les meilleurs atouts de la France, la qualité de la recherche et du développement, le tourisme, mais aussi paradoxalement un chômage plus important. Pourtant, les investisseurs savent qu'ils pourront recruter en s'implantant. Ce n'est toutefois pas l'heure de l'excès de confiance. Les perspectives pour 2019 sont moins bonnes. Explication de Marc Lhermitte, membre du cabinet EY.
La France était, aux yeux du monde, aux yeux des investisseurs, des dirigeants, très bien vue et presque la seule à proposer une image un peu positive. En 2019, on va dire que l'enthousiasme est un peu plus modéré. C'est un retour à la normale, mais une situation normale qui est un peu plus favorable que les 10 dernières années. Pour aller plus loin, pour marquer notre avantage par rapport au Royaume-Uni, qui est dans une situation difficile, et aussi à l'Allemagne, qui est victime, c'est un paradoxe, de son plein emploi, il faut continuer à travailler sur la pression fiscale en France, parce que c'est encore notre principal handicap. Il faut accélérer le rythme, il faut maintenir le rythme, et peut-être l'accélérer, notamment sur le champ fiscal, notamment sur le champ de la modernisation de l'action publique, pour une France qui sera demain plus attractive encore.
Des propos recueillis par Anne-Laure Jumet pour Europe 1. Vous n'avez pas pu déclarer ces dernières heures vos impôts en ligne. C'est normal, problème technique sur le site de l'administration fiscale.
Ah, mais c'est pour ça, parce que je l'avais fait, je tiens à préciser.
Dû à un nombre trop important de connexions à quelques heures de la date butoir. Du coup, le délai est rallongé de 48 heures. Vous avez jusqu'à jeudi soir minuit pour déclarer vos revenus si vous aviez le 4 juin comme date limite.
Europe 1, il est 5h03.
Peu de perturbations attendues aujourd'hui dans les trains, malgré une journée d'action à la SNCF, trafic normal, à l'exception des TER, des Hauts-de-France et du centre Val-de-Loire. Les syndicats de cheminots entendent se mobiliser à nouveau contre la réforme de la SNCF qui prévoit l'ouverture à la concurrence, notamment, et l'arrêt de l'embauche au statut à partir de janvier prochain. Cela a conduit, selon eux, à une dégradation du climat social dans l'entreprise. À Paris, un cortège doit s'élancer à 13h de la place d'Italie, direction Montparnasse.
La politique, Jérôme, et les grandes manœuvres commencent pour tenter de reconstruire la droite.
Au surlendemain de la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains, le chantier est immense. Gérard Larcher, président du Sénat, réunit aujourd'hui les chefs de groupe parlementaires Christian Jacob et Bruno Retailleau, mais aussi les représentants d'élus locaux, François Baroin, président des maires, Dominique Bussereau pour les départements et Hervé Morin pour les régions. Dans un entretien au Figaro ce matin, Laurent Wauquiez met en garde contre la perspective, je cite, d'un grand parti mou de centre-droit. Deuxième jour de la visite de Donald Trump en Grande-Bretagne, aujourd'hui rencontre avec Theresa May, la première ministre, sur le départ. Hier soir, les fastes de Buckingham Palace pour Donald et Melania Trump, dîner d'État avec Elisabeth II, la reine, qui a fait passer quelques messages au président américain, Anaïs Cordoba.
Dans la somptueuse salle de bal, Elisabeth II, vêtue de blanc et de rubis birmans, ouvre le banquet. Son discours est une ode au lien très spécial qui unit les deux pays. Sacrifice pour la liberté, valeur commune, même si subtilement la reine glisse une allusion à l'importance des Nations Unies, souvent critiquée par Donald Trump.
Après les sacrifices partagés de la Seconde Guerre mondiale, la Grande-Bretagne et les États-Unis ont travaillé avec d'autres alliés à la construction d'une assemblée d'institutions internationales pour assurer que les horreurs des conflits ne se répètent pas.
Une fois n'est pas coutume, le président répond avec une infinie courtoisie, comme s'il était terrifié de commettre un impair. Il rend un hommage appuyé à la reine.
Au nom de tous les Américains, je porte un toast à l'amitié éternelle de nos peuples, à la vitalité de nos nations et au précieux et remarquable règne de Sa Majesté la Reine.
Un décor d'apparat et des toasts feutrés qui ont presque fait oublier le boycott des deux chefs de l'opposition et du président de la Chambre des communes. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Un tiers des Français restent rivés aux écrans, portables et tablettes pendant les repas, qu'ils soient seuls ou accompagnés, une pratique qui concerne même la moitié des 18-34 ans. Conclusion d'une étude de l'Institut Kantar dévoilée aujourd'hui. Et puis, la fin d'une époque, Mathieu, Apple a acté cette nuit.
C'est toute notre jeunesse qui s'envole, Gégé.
La fin d'iTunes, sa célèbre plateforme multimédia lancée il y a 18 ans, ce afin de privilégier ses applications de streaming plus fluides et plus modernes comme Apple Music ou Apple TV.
iTunes et non pas iTunes, comme vous me lisiez tout à l'heure hors antenne. Hein. Franchement, les gars, il faut se mettre à la page.
Il faut le dire. C'est lui qui disait.
Non, mais c'est tombé. Il est de mauvaise foi terrible. Voilà,
moi, de mauvaise foi, c'est scandaleux. On passe au journal des sports, cher Jérôme. À la une. Oh, bah tiens. La fin des espoirs français en simple à Roland-Garros.
Et oui, Gaël Monfils et Benoît Paire.
J'ai repris le lancement de l'année dernière et celle d'avant était encore là.
Non, l'année dernière, ils n'avaient même plus aucun dès les huitièmes. Donc ils font mieux cette année.
Ah, belle performance.
Il n'y a plus de tricolore dans les tableaux simples du Grand Chelem de tennis parisien, c'est vrai, à l'issue des huitièmes de finale. Gaël Monfils sorti hier sans contestation possible par l'Autrichien, quatrième mondial, Dominique Thiem. Beaucoup plus frustrant pour Benoît Paire. On sentait l'exploit possible face au Japonais Nishikori, septième mondial. Le Français, il a même servi pour le match dans le cinquième set. Seulement, voilà, il l'avoue d'ailleurs, dans la tête, il a flanché, il a perdu son tennis.
Ce qui se passe, c'est juste qu'on a envie de poser la raquette par terre, d'appeler quelqu'un d'autre et lui dire vas-y, joue à ma place, parce que moi, de toute façon, tu feras mieux que moi. Le bras qui passe plus, on a l'impression que même faire un service, alors que j'en ai fait des millions depuis que je joue au tennis, c'est dur. Le bras est tellement lourd et la raquette, j'ai l'impression qu'elle pesait 3 tonnes. Chaque point, on se dit oh là là, c'est dommage, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'y s'est passé ça, pourquoi ci, pourquoi ça. Beaucoup de questions et on est même plus concentré sur le tennis, on est juste en train de se dire bon, comment essayer de juste gagner un point.
Aucun Français en quart de finale encore cette année, ça fait 3 ans depuis Richard Gasquet en 2016.
Également hier, tranquille qualification de Djokovic.
Oui, contre l'Allemand Struff, c'est aussi passé pour l'Allemand Alexander Zverev, tombeur de l'Italien Fognini. Côté dame, coup de chapeau à la toute jeune américaine Amanda Anisimova, 17 ans, et qualifiée pour les quarts de finale. Aujourd'hui, justement, début des quarts de finale avec un Nishikori Nadal et le match Suisse-Suisse, Wawrinka Federer.
Ah, ça, c'est
n'existe
beau.
Pas, Suisse-Suisse.
Suisse-Suisse, Helvético-Helvético,
ouais,
on dit, s'il vous plaît.
Voilà. Revanche de 2015, hein, Wawrinka avait sorti Federer en trois manches.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du jour.
Deux, les basketteurs de Monaco ont fait hier soir un grand pas vers une deuxième qualification d'affilée pour la finale du championnat de France. Ils ont battu Dijon 84-75 dans le match 2 de leur demi-finale. Monaco mène cette série 2-0. La première équipe à 3 victoires se qualifie. Possible verdict donc jeudi soir pour le match 3 en Bourgogne.
Merci beaucoup, c'était le Journal des Sports de Jérôme Lacroix.
Et les 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains continue avec un point météo suivi du pressing, notre traditionnelle revue de presse en mode zapping. Et puis, changer de mot de passe sur Internet en y intégrant une majuscule et des caractères spéciaux, c'est déjà une épreuve terrible. Alors imaginez changer de vie, de carrière, repartir à zéro, ça paraît fou. Pourtant, certains l'ont fait. Chaque matin, Europe 1 leur donne la parole. Ils ont changé de vie. Ce matin, nous partirons par exemple à la rencontre de Chloé, ex-informaticienne devenue chanteuse de jazz brésilien.
Bonjour docteur.
Et il est 5h09, Mathieu Noël.
Et si nous faisions, Céline, un point sur la météo ?
Mais allons-y !
Le soleil est encore présent sur l'est du pays.
Oui, principalement et largement même du, sud-ouest, au nord-est, avec à peine quelques nuages près de la Méditerranée pour cet après-midi. Là où ça se gâte, c'est dans le nord-ouest, avec l'arrivée dès ce matin d'orages qui vont gagner en intensité dans l'après-midi et qui toucheront surtout la région centre, l'Île-de-France, la Haute-Normandie et les Hauts-de-France, des orages localement forts avec de la grêle et de bonnes rafales de vent. Pour les autres, ça va rester encore calme et ensoleillé, avec juste quelques coups de tonnerre sur les côtes basques et les Alpes-Maritimes, le tout sous des températures très chaudes cet après-midi, jusqu'à 34 degrés à Besançon. Ça va bien baisser demain après le passage de la perturbation. Il en fait 29 à Paris aujourd'hui, il en fera 18 demain.
Merci Céline Varoc.
Le 4 juin 1666, c'était la première représentation du misanthrope de Molière. Misanthrope, ça veut dire celui... Oui, j'étais déjà là, évidemment. Celui qui a une aversion pour le genre humain. Alors, qu'est-ce que vous détestez le plus chez les autres? DLM72 nous dit, par exemple, sur Twitter, avec le hashtag Europe 1, la connerie, les incivilités croissante et l'individualisme, on valide évidemment. Louala nous dit le manque de respect vis-à-vis d'autrui et le racisme des mots de nos sociétés modernes. Et Till the Cat nous dit, ceux qui mangent la bouche ouverte, ça me donne des envies de meurtre.
Oui.
Je suis misophone. Vous savez, misophone, c'est les gens qui détestent les bruits du quotidien comme ça.
Eh bien, j'ai appris un mot, grâce à vous, chers auditeurs.
Et
c'est
vous continuez.
L'interactivité
Vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, l'émission qui vous cajole comme une mère, vous informe comme un sage et vous remue comme un grand 8. Et chaque matin vers 5h10, mieux vaut être bien accroché. Car nous partons à la rencontre de personnes aux trajectoires spectaculaires. Un jour, elles ont carrément changé de vie. Ce matin, je vous présente Chloé Dem, 41 ans, qui vit à Paris. Elle a travaillé 3 ans en tant qu'informaticienne. Et lors d'un voyage à Rio, elle n'est pas montée là-haut, mais elle est tombée amoureuse de la musique brésilienne. Elle chantait alors pour le plaisir, jusqu'à ce qu'elle décide d'en faire son métier et de devenir chanteuse de jazz.
Fallait oser.
Il s'est trouvé qu'un festival a été organisé à la Grande Halle de la Villette. Il y avait une école de samba de Rio qui venait jouer et on devait les accompagner. Et quand l'école de samba de Rio de Janeiro est arrivée, le chanteur est venu me voir en me disant « Mais enfin Chloé, t'as fait répéter les gens pendant des mois, est-ce que tu veux pas m'accompagner sur scène ?» Et je suis descendue de scène et j'ai dit « Mais c'est ce que je veux faire pour le restant de mes jours en fait !» C'était une espèce d'énorme claque d'adrénaline, une expérience un peu inédite.
Et une nuit que j'ai toujours lutté.
Mais c'est pas mal du tout ça, Chloé. Ah oui, c'est très joli. À 25 ans, Chloé s'est donc lancée dans une formation de chanteuse et percussionniste. Elle n'a réussi à en vivre que 5 ans plus tard.
Chloé a également pris la tête de la première école de percussion afro-brésilienne de France pendant 10 ans. Elle a sorti un premier album en 2016. Elle est auteure, compositrice et interprète, en portugais évidemment, Céline. C'est un métier instable, mais elle ne compte pas faire autre chose.
Je me lève tous les matins en sachant pourquoi je me lève. Ça, c'est quand même un luxe et un bonheur absolu. Je me sens à ma place, en fait. Évidemment, j'ai des petites inquiétudes par rapport à mon taux de retraite, parce que je ne gagnerais pas à la retraite, par exemple, ce que j'aurais pu gagner si j'avais continué dans l'informatique. Mais en même temps, je me dis, est-ce que j'aurais vraiment envie d'être à la retraite dans ce métier-là ? Je ne crois pas, en fait. C'est une passion, donc ça ne s'appelle pas de pause. Ce sera là toute ma vie.
Chloé travaille actuellement à son deuxième album et elle espère pouvoir bientôt tester ses morceaux sur scène.
Et si vous aussi, vous avez changé de vie, hein, que vous êtes devenu percussionniste ou violoniste, bien vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Et les 5h13, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7, qui avait pour mission de rajeunir l'audience d'Europe 1 et qui, grâce aux efforts parfois excessifs de Céline Dacosta, a réussi.
Les Schtroumpfs ont besoin de toi ! Es-tu prêt pour une nouvelle aventure ?
Allez, assure, mardi les bons tuyaux, notre rubrique culture et technologie. Et attention, coup de tonnerre dans l'univers de la pomme, on en parlait. Apple pourrait annoncer la fin d'iTunes. On vous dit tout et ce qui va se passer notamment pour vous. Et puis le docteur Marcel Ichou viendra nous ausculter. Il nous expliquera comment le sport dope notre système immunitaire. La preuve ?
Et il est 5h47, je suis soufflé.
Voilà ce qui arrive quand, au lieu de faire du sport, on fait des cookies. Ouais. En attendant, prenons des forces en musique. Voici Mind If I Stay, Cadet Bostani sur Europe. Mind If I Stay, un titre validé par un hochement de tête par Eva Rock. C'était Cadet Bostani sur Europe 1.
Il est 5h16. Voici l'essentiel de l'actualité avec vous, Mathieu Noël.
Peu de perturbations attendues aujourd'hui dans les trains malgré une journée d'action à la SNCF. Trafic normal à l'exception des TER des Hauts-de-France et du Centre Val-de-Loire. Les syndicats de cheminots se mobilisent à nouveau contre la réforme ferroviaire du gouvernement. La France, deuxième pays le plus attractif d'Europe l'année dernière, selon une étude dévoilée aujourd'hui. 1027 projets d'investissement. La France derrière la Grande-Bretagne, mais devant l'Allemagne. Enfin, un problème technique sur le site de l'administration fiscale a empêché les contribuables de déclarer leurs revenus en ligne ces dernières heures. Du coup, délai rallongé de 48 heures, vous avez finalement jusqu'à jeudi soir minuit.
Europe 1.
Voici pour les principaux titres de ce 4 juin. Et avant de passer au pronostic hippique avec l'homme qui sait tout, l'homme qui sent tout, Thierry Léger, dites-nous comment vous sentez Eva Rock pour l'été.
Sérieuse, maniable et facile à monter, non, ce qui devrait lui permettre ici de s'imposer.
Ah, merci, bonjour Thierry.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vichy et mon pari gagnant sera le 102 Classic Connection. À peine âgé de 5 ans, ce fils du crack étalon Love You a longtemps été ménagé par son entourage. Auteur d'une rentrée victorieuse le 21 mai, après 4 mois d'absence, sur le même parcours que celui qu'il empruntera cet après-midi, le style de son succès me permet de vous affirmer qu'il ne devrait avoir aucune difficulté à doubler la mise. Alors notez bien, pour cet après-midi à Vichy, réunion 1 dans la première course, le numéro 2, Classic Connection.
Merci Thierry Léger.
Il est 5h18.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains et ouvrons sans plus attendre la séquence la plus intimiste de notre émission, celle du pressing, celle qui vous permet chaque matin de regarder par le trou de la serrure de notre joyeuse colocation et de devenir tout rouge tellement ce que vous y voyez est parfois choquant, comme la fois où Jérôme avait mis un slip trop court.
Moi j'ai vu passer un morceau de barbac mais ça donnait bien envie. Hein.
Et hier, dans notre salon, s'est organisée la plus pénible des soirées. Alors là, c'est par ailleurs. Celle qu'on tente tous d'esquiver sans succès, la réunion annuelle des copropriétaires. Nous nous sommes portés volontaires pour accueillir l'assemblée autour de quelques curly et d'un coca sans bulle marque distributeur. Très vite s'installa ce malaise pesant propre à toutes les réunions de copropriétaires où le small talk est roi. 19h02, Céline essaya de faire la conversation aux premiers arrivants.
Quand on voit les bouchons qu'il y a eu mercredi, on imagine qu'il y a beaucoup de monde dans les stations balnéaires, ça c'est sûr.
Puis, à court d'inspiration, elle tenta le tout pour le tout.
Un trivial poursuite, en équipe.
Elle essuie un refus de Nadine Michard, 87 ans, grande adepte des coups de balai à 23h01. Céline insista.
Un time's up.
Bon, Céline, ça suffit, on n'est pas en train de passer le BAFA, ça suffit, on s'en fout. Puis, le temps des ragots et de la médisance arriva enfin. Chacun s'acharna sur cette locataire du 5e qui, selon la rumeur, ferait venir chez elle un homme différent chaque soir. Céline en rajouta une couche afin d'être bien intégrée au groupe.
Et tout à l'heure, je suis tombée sur un japonais.
La réunion devint vite ingérable. Eva, à bout, à moitié endormie sur le canapé, n'avait qu'une envie qu'on libère son salon afin qu'elle puisse boire tranquillement son fût de bière devant Camping Paradis.
Ça dure longtemps encore?
Mais rien ne calma les débats houleux concernant les ampoules à choisir pour le hall d'entrée d'immeuble. Eva craqua.
Écrasez-la!
Non mais, Eva, enfin, on ne savait plus où se mettre. Du coup, afin de détendre l'atmosphère et en gardant droit dans les yeux Madame Michard, donc la vieille, Jérôme Lacroix, muet jusqu'à présent, prit les choses en main.
Disons-le, on va parler de la mort.
Et là, comme par magie, notre salon se vida d'un coup. Céline raccompagna les copropriétaires à la porte, histoire de glaner encore quelques potins.
23 cm.
Qui vous a dit ça? Je déteste qu'on parle de moi dans mon dos. Allez, on passe au pressing. Notre revue de presse en mode zapping. À la une de vos quotidiens. Ce matin, économie ou politique? L'économie est cette nouvelle qui s'affiche en première page des Échos et du Parisien. Attractivité économique, la France dépasse l'Allemagne. Côté politique, la droite n'en finit pas de faire parler. Le Figaro titre, la droite joue sa survie entre Le Pen et Macron, pendant que Libé écrit demain la droite. Et puis la plus belle des unes, évidemment, c'est celle de l'équipe, Roger Federer, Stan Wawrinka, avec qui je jouais enfant à la baballe. Le Swiss Open, les deux Suisses qui se retrouvent en quoi? En quart de finale de Roland-Garros,
oui,
GG?
Absolument,
c'est pas rien. Mais vous, mes infatigables bambocheurs, qu'avez-vous déniché dans la presse du jour? Vous aimez bien bambocheurs?
Ouais, ouais, ouais.
C'est pas assez usité. Comment ça, ça veut rien dire?
Je sais pas.
Vas-y, ça veut dire, c'est des gens qui aiment la nuit et qui aiment festoyer.
D'accord.
Et Baroque, c'est à vous.
En marge des célébrations pour le 75e anniversaire du débarquement, exposition exceptionnelle au mémorial de Caen. Ça sera jusqu'au 27 octobre, comme le raconte West France ce matin, des tableaux de Norman Rockwell qui n'étaient jamais sortis des États-Unis. Oh, j'avais une petite musique. Mais...
Visiblement, vous ne l'avez plus.
Ah oui, je ne l'ai plus, dommage. Bon, je vais vous la mettre à la fin de la chronique. Parmi les peintures, quatre toiles peintes entre 1942 et 1943 par l'illustrateur américain et baptisées les quatre libertés. La liberté de culte, la liberté d'expression, celle de vivre à l'abri...
Et la liberté de penser.
Non, et celle de vivre à l'abri de la peur. Quatre grands principes, écoutez-moi Mathieu, énoncés par Roosevelt en 1941,
bien
alors
sûr,
que le pays n'est pas encore entré en guerre.
Et repris de Thomas Hobbes, le philosophe, dans le Léviathan. Mais je vous écoute parfaitement,
bon,
je suis...
Des mots considérés pour beaucoup d'ailleurs comme le texte fondateur de l'ONU en 1945. En 1941, donc Norman Rockwell, illustrateur de talent et désireux de peindre de grands tableaux, s'empare du discours de Roosevelt et il va décider de représenter ces quatre libertés à travers des scènes de la vie quotidienne dans lesquelles on reconnaît ses voisins du Vermont. Rockwell envisage ensuite de les offrir au bureau de la propagande de guerre et bien refus de l'État. Les peintures sont alors publiées sous forme d'encarts dans le Saturday Evening Post et deviennent rapidement des œuvres iconiques, surtout l'objet d'une exposition itinérante qui va permettre de recueillir 130 millions de dollars pour l'effort de guerre. Le succès sera tel que 2,5 millions d'affiches seront éditées avec ces quatre peintures. Elles n'étaient jamais sorties des États-Unis, c'est la première fois qu'elles sont exposées en France, autant dire que leur exposition à Caen est un événement.
Elle ressemble à un portrait de Norman Rockwell.
Oh là là.
Un petit coup dédié à 5h22.
Ça fait toujours du bien.
Je dis que ça fait toujours du bien. Ça va peut-être pas rajeunir notre public, mais on s'en fout. Céline.
C'est surtout Norman Rockwell qui risque de pas les rajeunir.
C'est
enfin,
vrai.
Alors moi ce matin, j'ai une pensée pour les habitants de Tours-la-Ville, une petite commune à l'est de Cherbourg, qui vivent un enfer à cause des odeurs de poisson.
Ah, de poisson ?
Oui, et c'est pas parce qu'ils sont au bord de mer, vous allez voir. On a tous fait un trajet en voiture un jour.
Ah oui, surtout
ou en
vous.
Passant. Oui, surtout moi dimanche, mais on a tous fait un trajet en voiture ou un jour en passant au milieu de nulle part. Pourquoi vous riez déjà ? D'un coup, on sent une violente odeur, au point de se demander si ce n'est pas quelqu'un dans la voiture qui aurait... Non mais c'est vrai. Alors on ose, on ouvre un petit peu la fenêtre là, non ?
Mais c'est pire.
Effectivement, sauf qu'à l'extérieur, c'est pire. Vous voyez, c'est du vécu, tout, on l'a tous vécu, franchement. Eh bien, cette odeur, c'est souvent à cause du lisier utilisé par les éleveurs dans les champs, c'est vrai, ou bien d'usines qui sont situées dans ces zones, et c'est ce qui arrive à nos Tours-la-Villée. L'usine Nutrifiche, spécialisée dans la transformation de déchets de poissons en arômes pour soupe ou terrine, leur pourrit la vie, parce qu'elle dégage une odeur de poisson en permanence. Alors, c'est une petite usine de 40 salariés, et pourtant, le patron, pour pallier à ce problème qui empêche les habitants d'ouvrir leurs fenêtres, même quand il fait très chaud, c'est quand même un souci, vient d'investir 700 000 euros pour capter ces odeurs par ozone. Il a même installé un énorme filtre à charbon. Les experts confirment, ils sont à présent dans les normes, même si le directeur de l'usine admet qu'il reste encore des odeurs. Les riverains sont aussi de cet avis et disent que c'est juste supportable. Un collectif a été créé pour s'assurer, par la justice s'il le faut, que les habitants et les touristes qui veulent encore venir, on en fait de la bonne pub pour
Tours la ville,
c'est quand même une charmante petite ville balnéaire, ne passeront pas un été de plus à sentir le poisson. On est tous avec vous, les Tours-la-Villée, c'est-à-dire dans les pages régions d'aujourd'hui en France. Voilà, non,
et d'ailleurs, vous annoncez que vous vous engagez à passer un week-end là-bas en signe de solidarité.
D'accord, mais uniquement s'il n'y a personne sur la route quand je rentre.
Et on mangera du poisson.
Voilà, tout ça.
Jérôme Lacroix, au lieu de rire bêtement.
Pas bêtement, pourquoi ?
Ce qu'on ne fait jamais dans cette émission.
Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Le Parisien aujourd'hui en France nous apprend...
Ah, c'est trop drôle.
Oh, déjà. Ah, mais quel effet comique. Mais c'est le Gad Elmaleh du News. Il n'a même pas dit un mot qu'elle est déjà morte de rire.
J'espère que c'est vraiment drôle.
Alors, allez-y, on attend.
Ça va venir, il y a une vanne. Le Parisien aujourd'hui en France nous apprend qu'au restaurant, on paie l'addition, mais on paie aussi... l'addiction. Ben oui, le journal, c'était ça la vanne. Vous
n'avez
pas, vous avez même pas ri.
Ah bon. Oui, ben vite.
Le journal, journal relate les enseignements de cette étude sur notre rapport aux écrans pendant les repas. Ah, le chiffre global, le voici. Un Français sur trois utilise son portable ou sa tablette pendant un repas. Et chez les 18-34 ans, là on n'est plus dans l'habitude, on est carrément dans le réflexe. Au restaurant, la moitié d'entre eux pianote et textote. Chez papy et mamie, c'est 49%. Avec les amis, 58%. Et même pendant un dîner en amoureux, 31%.
Chacun est sur son...
31%.
Ouais. C'est pas étonnant parce que c'est partout maintenant. On utilise son téléphone partout.
Enfin, quand même, la politesse, ça existe partout aussi.
Alors justement, j'entends bien Eva, mais bon.
Et justement, mais c'est exactement ce que vous dites, Eva. Pourtant, ils savent que c'est pas bien. Pour 65%, donc on parle des 18-34 ans là, c'est un manque de politesse. Ça parasite l'instant présent. Ça court-circuite la convivialité des repas. 69% confessent être addicts. Sauf que les écrans à table, ça influe aussi sur l'appétit.
Ah,
un
oui.
trouble fait, écrit le Parisien. Ça perturbe le sentiment de satiété. Alors, on se met à manger, en fait, mécaniquement. Ça peut nous conduire à avaler de 15 à 20% de quantité en plus. Et on aurait aussi tendance à manger, on aurait aussi tendance à manger plus salé et plus sucré. Deux petites astuces. Celle-ci délivrée par un addictologue interrogé par Europe 1. Vous allez entendre le reportage dans les journaux de la matinale. Mettre ses appareils en mode avion pendant le repas pour éviter de recevoir toutes les notifications, etc. Et tout simplement, éloigner portable et tablette de la table. Ça paraît bête, mais bon. Le journal Le Parisien a par ailleurs interrogé un neurologue qui confesse qu'on ne connaît pas bien encore l'impact des écrans sur nos comportements. Et il rappelle, c'est rigolo, que quand l'électricité est arrivée dans les foyers, les gens pensaient qu'ils n'allaient plus jamais dormir de la nuit. Et il conclut par ailleurs que pour éviter une aggravation de la situation et donc les écrans à table, c'est d'abord au parents, de montrer l'exemple pour les générations à venir.
Bien évidemment. Ah, on a bien ri. Merci à tous, les amis. Le pressing referme ses portes, il les réouvrira demain. Jérôme, je vois vous éloigner brusquement de Céline. Qu'est-ce qui vous dérange chez elle ?
Les gaz et les éructations, et puis les odeurs corporelles.
Ah, voilà, on en parlait. Merci,
vous n'avez
merci.
Pas toujours dit ça. Europe 1. Il est 5h27, Mathieu Noël.
Oui, mais c'est ça les vieux couples. Debout les copains, continuent avec la météo et le journal d'Hélène Zélani. Électrisant réveil à l'écoute d'Europe 1.
Europe 1.
Et il est 5h28, Mathieu Noël.
Céline, on fait un point sur le temps du jour. Un ciel orageux pour le nord-ouest du pays.
Oui, un ciel bien nuageux déjà du Poitou-Charente aux côtes de la Manche en passant par l'ouest du bassin parisien en ce moment. Avec localement ces orages, pour les autres, le ciel sera plus clément avec encore beaucoup de soleil. Un peu plus de neige sur les côtes du Roussillon et du Var. Et les nuages vont gagner du terrain. Les orages devenir de plus en plus forts avec de la grêle, de bonnes rafales de vent cet après-midi de la Touraine à l'Île-de-France jusqu'au Nord-Pas-de-Calais. Le ciel va rester nuageux sur la Bretagne et le Cotentin, mais avec un temps plus sec. Et pour les autres, à part un peu d'instabilité sur les côtes basques et les Alpes-Maritimes, où là on pourra avoir quelques coups de tonnerre également, le ciel sera ensoleillé avec un petit peu de vent.
Et les températures grimpent. Hein.
Oui, ce qui explique ce temps lourd et ces orages, puisque cet après-midi, à part sur le nord-ouest, hein, où la moyenne ira de 18 à 23 degrés, la Bretagne, le Cotentin, il fera très chaud, 26 à 34 degrés. On attend 29 degrés à Paris, 30 à Montélimar, 31 à Bourges, 33 à Lyon, 34 à Clermont-Ferrand et Besançon. Ce matin, c'est déjà très doux, 12 à 19 degrés, il en fait 16 à Paris.
Merci beaucoup Céline Dacoste.
Europe 1, 5h, 7h. Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire et porté par la démesure burlesque de mes consoeurs Eva Rock et Céline Dacosta. Démesure qui devient parfois encombrante lorsque je n'arrive même plus à vous annoncer le programme. À suivre, impatient. On se calme. Impatient d'épater vos collègues à la machine à café pour votre. Mais je n'y arriverai pas à faire ce lancement. Bon, rapidement, à suivre. Taisez-vous. Apple annonce la fin d'iTunes. Mais qu'est-ce que ça va changer pour vous si vous avez un compte, si toute votre musique est sur iTunes? La réponse dans Mardi les bons tuyaux. Et puis, le sport, c'est la santé. Un adage antédiluvien qui désormais a une base scientifique. Le sport dope le système immunitaire. Le docteur Ichou vous explique comment et pourquoi dans votre point santé.
Chut. Bienvenue sur Europe 1, il est 5h30. Mathieu Noël.
Toute l'info de ce 4 juin. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
Les cheminots dans la rue pour protester contre la réforme ferroviaire mais aussi contre la dégradation du climat social à la SNCF. A priori, quasiment pas de répercussions sur le trafic. Réunion de crise chez les Républicains. Le président du Sénat, Gérard Larcher, réunit des responsables de la droite et du centre pour parler de la reconstruction après l'échec aux européennes et la démission de Laurent Wauquiez. Et puis, 48 heures de plus pour déclarer nos revenus. Le gouvernement accorde un délai supplémentaire aux contribuables après le bug d'hier soir lié à l'afflux de connexions sur le site internet des impôts.
Europe 1.
Un an après la réforme ferroviaire, 4 syndicats de cheminots appellent donc à une journée de grève et à une manifestation à Paris. CGT, CFDT, Sudrail et UNSA dénoncent une mauvaise réforme, des régressions sociales ou encore un rouleau compresseur. Ils insistent sur la dégradation du climat social dans l'entreprise. Concrètement, les syndicats évoquent la forte poussée de ce qu'on appelle les risques psychosociaux. François Geffrier.
La SNCF, c'est France Télécom il y a 10 ans. La comparaison, avancée par plusieurs syndicats, donne le frisson. Une vingtaine de cheminots se seraient suicidés depuis le début de l'année, poussés à bout par les restructurations. Bruno Poncet est le secrétaire fédéral de Sudrail.
Moi, j'ai l'exemple d'un collègue qui était aiguilleur sur la région de Dijon. On ferme son poste, on l'envoie à environ 50 km de chez lui. Au bout de 6 mois, on resupprime son poste. Cette personne est partie dans une forêt suicidée. Donc ces gens se retrouvent sans boulot, ou alors on les fait faire des boulots qui n'ont rien à voir, ou on les met des fois dans des placards. C'est fait qu'à un moment donné, la personne se sent réellement en souffrance dans son travail.
Rythme insoutenable, carnage social selon les élus du personnel. La direction de l'entreprise a ses propres chiffres sur les suicides. 8 en tout depuis 2013 ont été reconnus comme liés au travail. Le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, se dit conscient du climat social délicat.
C'est beaucoup, beaucoup de changements en même temps. Et donc il faut avoir une seule vision en tête, c'est faire attention aux hommes et aux femmes. Et moi, je me sens concerné le premier. Et donc, prendre soin de chaque personne, parce qu'il y a énormément de transformations qui sont en cours.
Preuve d'une situation tendue, la SNCF a fait appel au service de Bruno Mettling, ancien DRH qui avait eu à France Télécom le rôle du pacificateur après la vague de suicides.
François Geffrier avec Aurélien Fleureau. A priori, la direction de la SNCF prévoit un trafic quasiment normal. Les seules perturbations devraient concerner les TER des Hauts-de-France, 1 sur 2, et du Centre-Val de Loire, 1 sur 5. Des sifflets pour Bruno Le Maire à Belfort. Le ministre de l'Économie a été accueilli par des salariés de General Electric très remontés par le plan social qui prévoit 800 suppressions de postes sur le site, plus de 1000 dans toute la France. Bruno Le Maire a demandé au groupe américain de revoir ce nombre à la baisse. En revanche, une bonne nouvelle en Alsace, l'allemand Delticom, qui vend des pneus en ligne, va créer 300 emplois à Ensisheim, dans le Haut-Rhin. Une plateforme logistique qui sera mise en service dans un an.
Europe 1, il est 5h33.
Après le départ de Laurent Wauquiez, place à la reconstruction chez les Républicains.
Oui, cet après-midi, les responsables de la droite et du centre se réunissent à l'initiative de Gérard Larcher, le président du Sénat. Et les militants dans tout ça, quelles sont leurs attentes? Qu'espèrent-ils de cette période de transition? Écoutez le reportage dans le Nord, signé Lionel Gougelot.
Laurent Wauquiez parti, Guy-Noël Sellière, militant lillois, espère que cela va donner de l'oxygène aux Républicains.
Ça va ouvrir les fenêtres, ça va permettre de discuter, ça permet de dialoguer sereinement, ça va permettre d'éviter d'être caricaturé. Maintenant, c'est place à la reconstruction, la refondation.
Une refondation pour un nouveau projet qui doit rompre avec la ligne identitaire, plus ouvert aux préoccupations des Français.
Il faut que la droite puisse aborder des sujets sur lesquels on ne l'attend pas, sur les sujets sur l'environnement, qui est une préoccupation majeure des Français, sur les sujets sociétaux, comme la fin de vie, des sujets où on n'entend pas beaucoup la droite, ou alors sur des positions très conservatrice. Aujourd'hui, les LR, ça doit être un parti d'ouverture qui doit rassembler le centre droit à la droite humaniste. Le parti, en fait, c'est simple, il doit redevenir l'UMP qu'il était avant.
Mais pour survivre entre La République En Marche et le Rassemblement National, une priorité selon Sébastien Leblanc, secrétaire adjoint des Républicains dans le Nord, renouer avec l'électorat populaire.
Ces Français qu'on laisse de côté, et que d'ailleurs la machine Macron laisse de côté, et que Madame Le Pen aujourd'hui essaye de raccrocher mais sans apporter de solution, on sait qu'on peut leur parler. Et c'est évidemment cette voie-là dans laquelle on doit s'engouffrer.
Mais surtout, supplie ces militants que nos dirigeants nous épargnent une nouvelle guerre des chefs, parce que là, on sera définitivement mort. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et ce matin, dans une interview au Figaro, Laurent Wauquiez met en garde contre l'éventuelle création d'un grand parti mou de centre droit.
Un gros bug pour le site internet des impôts.
Plus de 4 millions de connexions hier soir, chiffre donné par Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Le site internet s'est retrouvé bloqué face à l'afflux de contribuables qui voulaient déclarer leurs impôts au dernier moment. Le gouvernement accorde donc un délai supplémentaire de 48 heures et donc jusqu'à jeudi soir minuit au lieu de ce soir. Gérald Darmanin qui lance aujourd'hui officiellement dans l'Oise le site internet du droit à l'erreur. Europe 1 vous le révélait dès hier, oups.gouv.fr s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Il va répertorier les erreurs les plus courantes des Français pour les aider dans leur démarche administrative.
C'est aujourd'hui les 30 ans du massacre de la place Tiananmen à Pékin, sujet tabou en Chine.
Et à Washington, le secrétaire d'État américain Mike Pompeo dénonce l'État chinois à parti unique qui ne tolère aucune dissidence et viole les droits humains. Colère de Pékin qui condamne l'arrogance américaine. Et puis Donald Trump dînait hier soir au palais de Buckingham. Il a salué le règne véritablement remarquable d'Elisabeth II, qui elle a rappelé que sa première visite aux États-Unis, c'était à l'invitation du général Eisenhower en 1957.
Ah oui, ça ne nous rajeunit pas. Merci beaucoup, c'était le journal d'Hélène Zelani. Et rassurez-vous Hélène, il est là, mais je ne dirai rien. Conformément à ce que vous m'avez demandé, je ne dévoilerai pas ce que vous avez fait hier avec Jérôme Lacroix dans le secret de la salle de repos. D'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, il ne s'est quasiment rien passé.
3 cm, elle était tellement minuscule qu'elle tenait dans la main des infirmières.
Rien, en somme, rien ne s'est passé. Voici le journal des sports, oui, de Jérôme Lacroix.
C'était la visite médicale, oui, je me souviens.
À la une, une revanche à la Suisse.
À la Suisse, oui.
Il m'avait mis entre guillemets, tu peux le dire avec l'accent suisse, s'il te plaît. Alors moi, je m'exécute. Bah,
merci. Stan Wawrinka contre Roger Federer. Le Lausannois contre le Balois. Oui, c'est l'affiche du jour à Roland-Garros pour une place en demi-finale du Grand Chelem de tennis parisien. Possiblement, très certainement, contre Raphaël Nadal. Et oui, on parle de revanche, parce qu'en 2015, ces deux-là s'étaient affrontés déjà, et Wawrinka avait claqué Federer 3-7-0. Wawrinka, il avait ensuite remporté Roland-Garros cette année-là, et pour Federer, c'était jusqu'à cette année le dernier match qu'il avait disputé porte d'Auteuil. Federer n'a pas perdu un set en 4 matchs, à peine un peu plus de 7 heures sur le court cette année, alors que Wawrinka sort de son marathon avant-hier, plus de 5 heures rien qu'au dernier match contre le grec Tsitsipas. Le physique est frais côté Federer.
Très frais même. Ça s'est très bien passé jusqu'à présent. Je suis content avec le jeu. Physiquement, il n'y a pas de problème du tout. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de joueurs dans le tableau qui arrivent quelquefois dans le 3e, 4e, 5e tour cassés. Et pour moi, de mon côté, ce n'est pas le cas. Alors, je peux vraiment tout laisser sur le terrain pour ce quart de finale important.
Federer, Wawrinka à partir de 14h. Également aujourd'hui, Nishikori, Nadal, autre quart de finale. Côté français, aucun bleu en quart pour la 3e année d'affilée. Après hier, les éliminations de Pair par le japonais Nishikori et de Monfils par l'Autrichien Thiem. Journée présidentielle pour les Bleus du foot, filles et garçons. Emmanuel Macron déjeune à Clairefontaine avec l'équipe féminine à 3 jours de l'ouverture de la Coupe du Monde en France. Et cet après-midi, le président remet à l'Élysée la Légion d'honneur aux garçons, récompense de leur titre mondial l'été dernier.
Et justement, comme tous les jours cette semaine, à cette heure-ci, on vous propose de mieux connaître les joueuses de l'équipe de France.
Portrait de bleu ce matin, la défenseur Wendy Renard, la charismatique Simon Rubin.
Enfant, Wendy Renard faisait déjà trois têtes de plus que tout le monde. Ça lui a valu pas mal de moqueries. Pourtant, aujourd'hui, son 1m87 est l'une de ses forces. La défenseuse est devenue un pilier de l'équipe de France. Et son histoire commence par un arrachement. Le départ de Martinique à 16 ans pour intégrer l'Olympique Lyonnais. Un moment pas si difficile pour elle. Le foot balayait tout, primait sur tout, peu importe les sacrifices.
J'avais beaucoup d'énergie et il fallait que je dépense. Donc je faisais beaucoup de sport. Mais le foot, même à la récréation de l'école, si on n'avait pas de ballon, on prenait une bouteille. Quand la maîtresse elle me demandait, je mettais non, je veux être footballeuse professionnelle, alors que ça n'existait même pas. J'avais cette détermination en moi et je pense que jusqu'à présent, je suis quand même assez contente.
Wendy Renard ou les vertus de la détermination sous cet air cool et relâché, la tôlière de 28 ans est une ambitieuse têtue qui gueule souvent dans le vestiaire. Catholique pratiquante, elle est convaincue que quand on croit en son destin, tout est possible.
Simon Rubin.
C'était Simon Rubin. Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix. Un journaliste qui n'a pas son pareil pour nous faire vivre toutes les émotions du sport.
Antoine. Voilà.
Ah, c'est avec des supporters. C'est étonnant que les Français ne franchissent pas les caps. Je ne comprends pas.
Europe 1.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe sérieusement sans négliger vos précieux zygomatiques. Car, comme dirait le docteur Ichou, le corps est un tout. Aujourd'hui, justement, de votre point santé, le bon docteur vous incite plus que jamais à vous mettre au sport. On savait qu'il était bon, on sait maintenant qu'il dope carrément le système immunitaire. Ça tombe bien, avec Eva, on fait beaucoup de sport ce week-end.
Tu l'as digéré la pavlova ?
Mais chut, on a fait du sport.
Il est 5h41, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, on fait un point sur la météo avec Céline Dacosta. Des orages pour le nord-ouest nous attendent aujourd'hui.
Et ça dès ce matin, des pays de la Loire-Cotentin, ils vont se décaler, devenir plus forts avec localement de la grêle cet après-midi de la région Centre-Hauts-de-France en passant par la région parisienne. Pour les autres, encore du soleil et des températures chaudes cet après-midi, 26 à 34 degrés en moyenne, il en fera 29 à Paris. Un petit peu moins dans le nord-ouest après le passage de la perturbation avec une moyenne de 18 à 23 degrés.
Merci Céline et Varoc.
Le 4 juin 1666, c'était la première représentation du misanthrope de Molière. Alors misanthrope, c'est vraiment celui qui a une aversion pour les autres, hein, pour le genre humain. Et vous, qu'est-ce que vous détestez le plus chez l'autre ? Vous nous répondez depuis ce matin 5h sur Twitter avec le hashtag Europe 1 comme Yannick qui nous dit les gens qui tweetent des questions compliquées à 3h30 du matin. Merci Yannick. Et Taco nous dit les gens de mauvaise foi, c'est-à-dire à peu près toute ma famille. Et comme les chiens ne font pas des chats, un peu moi aussi. Et puis les gens qui pensent aussi pouvoir dominer les autres et donner des ordres parce qu'ils ont de l'argent. Elle trouve ça détestable et je la comprends. Vous continuez à réagir sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Et voici l'heure de notre point santé. Bonjour docteur Ichou.
Bonjour Mathieu.
Si vous avez du mal à vous motiver pour aller courir, nager, marcher, bref, vous bouger, sachez que le sport dope le système immunitaire. Une équipe de chercheurs de l'université de Copenhague a réussi à le prouver. Comment ils sont parvenus à cette conclusion, docteur Ichou ?
Eh bien, le professeur Pedersen de l'université de Copenhague a mené une étude sur l'activité physique d'une population de jeunes hommes en bonne santé. Et il a constaté que pour ceux qui avaient une activité soutenue, si on déclenchait une baisse d'activité, on leur demandait tout d'un coup de moins faire de sport, eh bien la baisse de cette activité déclenchait en quelques semaines des troubles du métabolisme, du sucre et des graisses. Alors il y a un rapport parce que le métabolisme du sucre et des graisses est lié à une immunité. Par une moindre tolérance à ces aliments. Sans prendre forcément de poids, c'est l'infiltration graisseuse sur la paroi abdominale que l'on constate et qui est la cause de ce phénomène. On sait par ailleurs que le périmètre ombilical est un facteur de risque pour la santé qu'on mesure, notamment quand vous faites des bilans d'assurance. Ce critère d'ailleurs maintenant permet de relativiser l'IMC. L'exemple le plus parlant est celui de Teddy Riner.
Ah oui, ça c'est parlant. Oui.
Suivant les critères de l'IMC, il est obèse, voire très obèse avec 130 kilos, mais il ne l'est pas grâce à sa formidable musculature.
Est-ce qu'on a une explication à ce phénomène ?
Eh bien oui, le professeur Pedersen a essayé de chercher à comprendre comment ce phénomène se produisait et il a montré qu'une substance particulière, l'interleukine 6, rappelez-vous-en, serait à la base de ce phénomène d'immunité. Les interleukines sont des médiateurs de l'immunité et la grande découverte, c'est que cette interleukine est produite par le muscle et que son taux augmente avec l'activité physique. Donc retenez qu'à poids égal, vous prenez moins de risques en bougeant et que maintenant, on sait pourquoi.
On sait pourquoi, et surtout, je sais que je ne suis pas gros, j'ai beaucoup d'interleukines. Merci Marcel Ichoux, on se retrouve demain pour un nouveau Point Santé.
Europe 1, il est 5h44, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous informe, qui vous amuse et qui vous cultive. Grâce notamment à Mardi les bons tuyaux, tous les conseils de nos experts culture et nouvelles technologies. Aujourd'hui, on parlera de la disparition d'iTunes, on parlera littérature, séries, mais on ne parlera pas des relations dangereuses entre jazz et alcoolisme, sujet pourtant passionnant, réalisé en immersion par Céline Dacosta.
Choubidou shabadam, bidoudibidoudam.
Mardi les bons tuyaux arrivent sans ce sujet-là, hein, précédé d'une parenthèse musicale. J'entends une vraie parenthèse musicale, Céline, voici Zazie, Speed sur Europe 1.
Depuis le temps que tu dors, ça fait des mois. Dis-moi que tu hibernes, que tu sors pas de ta caverne. T'as beau tout faire pour le cacher, sous tes airs douces mal léchés.
C'était Zazie sur Europe 1. Et si je peux me permettre, ma chère Zazie, j'adore cette chanson, elle fait partie de ma playlist, mais elle est trop forte. Elle commence pas assez fort, elle est trop forte. Alors je comprends que ça s'accélère, mais pourquoi il faut égaliser mieux tout ça? Parce que sinon, quand je ne peux pas changer le volume, après ça m'ennuie, ça fait mal aux oreilles. Bobo aux oreilles. Attention Zazie. Zazie qui fera partie de la prestigieuse affiche des Vieilles Charrues, tout comme David Guetta, Jamel, Clara Luciani, Iggy Pop et tant d'autres. Les Vieilles Charrues, c'est du 18 au 21 juillet. Et c'est, comme vous le savez, un événement
Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h48, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, peut-être que comme moi vous avez patiemment construit votre bibliothèque musicale sur iTunes, l'application d'Apple. Et bien voilà qu'Apple vient d'annoncer la fermeture d'iTunes. Que faire? La réponse dans Mardi les bons tuyaux.
Il est 5h49, l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
Un problème technique sur le site de l'administration fiscale a empêché les contribuables de déclarer leurs revenus en ligne ces dernières heures. Du coup, délai rallongé de 48 heures, vous avez jusqu'à jeudi soir minuit. Les grandes manœuvres commencent pour tenter de reconstruire la droite. Au surlendemain de la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains, Gérard Larcher, président du Sénat, réunit aujourd'hui plusieurs ténors du parti. Dans un entretien au Figaro, Laurent Wauquiez met en garde contre la perspective, je cite, d'un grand parti mou de centre-droit. Enfin, deuxième jour de la visite de Donald Trump en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, rencontre avec Theresa May, la première ministre sur le départ. Journée politique après hier soir, les fastes de Buckingham Palace. Dîner d'État avec la reine Elisabeth II.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 4 juin. Et tout de suite, je ne le vois pas encore, mais je le flaire. Car à vivre toujours parmi les chevaux, on ne sent pas le Chanel numéro 5.
Un cavalier.
Bonjour Guillaume Cobès.
Bonjour Mathieu. C'est l'hippodrome de Vichy qui accueille le quintet du jour. Sur la grille de départ, les 14 marathoniens vont faire un long voyage de 3525 mètres. Mon favori, c'est le 9 Dostoïevski, disqualifié après enquête de la première place à Anguin le 25 mai dernier chez les Bazirs. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais la course n'est pas jouée d'avance avec le 2, Classic Connection, lauréat désinvolte pour sa rentrée sur cette piste. Le 4, Eliseo est un métronome. Voilà un bon point d'appui. Et le 9, Bad Jewelry ne lâche jamais le morceau. À cœur vaillant, rien d'impossible. Pour toucher plus, attention aussi, ce Cresta Rossa, c'est une petite voiture de course qui met toujours le turbo. Le 3, Éclat de Gloire, va monter en condition. Le 9, Bigedec, bénéficie d'un engagement sur mesure. Quant au 11, Crête de Satin, elle peut brouiller les cartes. Mon ticket pour la première course, vers 13h50, le 8, le 2, le 4, le 9, puis le 6, le 3, le 10 et le 11.
C'est pas idiot hein, de mettre Dostoïevski en tête. Comme on dit dans le jargon, il sait lire et écrire.
Certes, la dernière fois, Mathieu, il s'est emmêlé les crayons, mais il est prêt à reprendre sa plus belle plume pour écrire un nouveau chef-d'œuvre sur les bords de l'Allier.
Voilà qui va plaire à Nicolas Caro, notre spécialiste littérature. Merci Guillaume Cobès.
Il est 5h51.
Europe 1,
5h, 7h,
Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains, continue avec notre séquence culture et nouvelles technologies. Voici mardi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Clément Le Saffre pour les nouvelles technologies et pour parler littérature, celui qui a fait voler en éclats le cliché du critique littéraire snob et allergique au sport. À J-3 de l'ouverture de la Coupe du Monde de foot féminin en France, il est aussi excité que lors de la parution des mémoires de Julien Gracq en sérigraphie sur papier Bible. Il est comme un dingue, pas vrai Nicolas Caro?
Non, j'étais en train de me dire que déjà tous les 4 ans, on nous saoule avec les Bleus. Et maintenant, s'il y a l'équipe féminine en plus l'année d'après à chaque fois...
Bien critique littéraire, c'est ça. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
Nicolas, il n'assume plus. Mais si, oui, non, je sais.
Et vive
mais
vous France. Auriez
pu. Vive oui. La France quand même, oui. Nicolas, aux États-Unis, un couple a été arrêté pour vol de livres et ça vous a fait penser à d'autres vols de livres célèbres.
Oui, c'est le site Actualité avec deux T qui rapporte cette information. Un jeune couple de 22 et 25 ans volait des livres scolaires dans une librairie proche d'une université de Caroline du Nord. Il leur revendait ensuite et ce petit business leur a quand même rapporté quelques 10 000 dollars. Pas mal. Alors, en l'occurrence, c'est de la pure cupidité. C'est l'appât du gain qui les a motivés, pas l'amour des livres. Mais c'est un vrai sujet. Le vol d'un livre, est-ce le pire des crimes parce qu'il tue la littérature à long terme? Si tout le monde vole, les auteurs ne vivent plus et donc ils n'écrivent plus. Ou est-ce que le vol des livres est excusable dans une certaine mesure?
Parce qu'il enrichit intellectuellement les voleurs. Comment peut-on excuser ça, Nicolas?
L'exemple le plus célèbre, c'est le grand Jean Genet. Il est condamné à 8 mois de prison en 1942 pour avoir volé des livres. Alors c'était pas directement pour l'amour de la littérature mais pour alimenter sa boîte de bouquinistes sur les quais de la Seine. Mais c'est en prison qu'il écrit son premier livre. Le condamné à mort, il sort et il est de nouveau arrêté pour vol de livres. En 43, il avait volé cette fois une édition spéciale des Fêtes Galantes de Verlaine. Il sort au bout de 3 mois et il récidive. Retour en prison pour 4 mois.
Non mais c'était un kleptomane, c'est maladif à ce niveau-là.
Un peu, et d'ailleurs ça m'a fait penser à un livre récent, Confession d'une kleptomane chez Stock de Florence Noiville, sorti l'année dernière. L'héroïne raconte donc son penchant pour le vol et l'éditeur avait mis un bandeau sur le livre avec ce message « Vole-moi si tu l'oses ».
Oh, mais voler, c'est mal, quelle que soit la marchandise.
Oui, mais imaginons un gamin qui n'a pas d'argent, qui passe devant un stand de livres et qui le vole.
Et qui voit,
parce
par exemple, votre dernier ouvrage.
Par exemple. Et qu'il a lu la 4e de couverture et il a une irrépressible envie de le lire. C'est illégal, c'est mal. En même temps, je me vois mal le dénoncer à la police, surtout si c'est mon livre.
Si c'est le sien, il va dénoncer.
Ça se rapproche du crime passionnel. Oui.
C'est vrai. Bah, je vous laisse la responsabilité de vos propos, mais merci quand même, Nicolas Caro. On passe aux nouvelles technologies. Clément Le Saffre, notre spécialiste du numérique, vous êtes porteur ce matin d'une triste nouvelle. Apple va enterrer iTunes.
Bah ouais, je suis désolé, hein, mais c'est la fin d'une époque. Apple a officialisé hier soir une rumeur qui courait depuis maintenant quelques années. iTunes, c'est bel et bien fini. Le logiciel emblématique d'Apple, hein, conçu comme une bibliothèque musicale géante, va fermer. Et pourtant, faut bien le rappeler, Apple doit beaucoup, beaucoup à iTunes. Hein. C'est le logiciel qui a symbolisé le renouveau de la marque à la pomme dans les années 2000. Il a été lancé en 2001, quelques mois avant l'iPod, hein, il en est indissociable, c'est ce baladeur, hein, vous savez, on en a tous eu un dans notre poche à un moment, qui a fait le bonheur des jeunes, mais que vous en avez eu un, ou
et
pas d'ailleurs.
Est-ce que vous avez eu un baladeur cassette, vous, Clément?
Mais il était bané.
Figurez-vous que oui.
C'est bon?
Eh oui, allez hop, ça c'est réglé.
Amateur d'antiquité.
Mais et pourquoi
j'ai eu le CD, j'ai eu le baladeur cassette,
le CD, le Discman,
j'ai tout eu. Moi j'ai tout eu. Je suis jeune, mais quand même.
Pourquoi Apple abandonne quelque chose qui marchait visiblement iTunes ?
Eh bien en fait, iTunes c'est devenu trop complexe. En fait, au fil des ans, la bibliothèque musicale d'origine s'est enrichie d'autres contenus. Il y a eu les clips, les films, les podcasts, les livres audio, bref, beaucoup de choses. Ce à quoi il faut aussi ajouter l'iTunes Store pour acheter tout ça. Et puis iTunes sert aussi à gérer les données et le stockage de son iPhone et de son iPad. Donc ça fait trop pour Apple. Depuis quelques années, la marque a déjà commencé à séparer ses contenus, notamment en envoyant les films vers Apple TV, en envoyant les podcasts dans une application dédiée. Et puis l'arrivée d'Apple Music aussi, l'offre de streaming de la marque à la pomme, a aussi porté un gros coup à l'intérêt d'iTunes, il faut le dire. Donc ça doublonne de partout et Apple a décidé assez logiquement d'achever iTunes.
La question qu'on se pose, comment faire si on utilise toujours iTunes ?
Alors je vous rassure, Apple ne va pas nous laisser comme ça en rade sans rien. iTunes est mort, vive Musique, c'est le nom fort à propos, il faut le dire, du logiciel qui va remplacer iTunes dès cet automne. Il servira à acheter, streamer et organiser toute sa musique, mais uniquement sa musique cette fois. Et puis concernant la synchronisation de son iPhone, qui est un point important, aujourd'hui il faut obligatoirement utiliser iTunes. Et bah dès cet automne, il faudra passer simplement par votre Mac ou votre PC, vous le branchez comme une clé USB, il apparaîtra, vous pourrez gérer vos fichiers.
En toute simplicité.
Voilà.
Merci beaucoup Clément. Eva Rock.
En quelques mots, je vous conseille de regarder un documentaire extrêmement intelligent qui a été diffusé samedi soir sur Arte, Versailles, le palais retrouvé du Roi Soleil. Ça mérite vraiment une séance de replay. Vous allez découvrir que le château de Versailles, tel que nous le connaissons aujourd'hui, a subi énormément de modifications architecturales. Il y a eu des constructions, des destructions. Et pour faire revivre ces pièces, eh bien, ou des ailes entières qui ont disparu, historiens et scientifiques ont choisi de travailler ensemble. Vous allez le voir, connaissances historiques et nouvelles technologies, alors de type modélisation 3D et réalité virtuelle, s'allient pour reconstituer ces pièces disparues de Versailles qui vont enfin prendre vie sous vos yeux. Plan à l'appui, vous allez découvrir comment était la façade d'origine, par exemple. Un documentaire qui est un jeu de va-et-vient en fait entre expertise historique et avancée technologique. C'est passionnant et ludique, idéal pour les adolescents, notamment pour leur révision actuelle. Et c'est à voir sur le site d'Arte.
Ça me donne bien envie ça.
Ouais, c'est super.
Je suis passionné par Versailles et Nicolas Carreau donne des conférences là-bas.
C'est vrai.
Merci Eva Rock, merci à toute l'équipe des Bons Tuyaux qui se reformera demain. Nicolas, essayez peut-être de casser votre image d'un télo déconnecté des passions populaires. Allez, votre film préféré, ne citez pas un film de Terrence Malick.
C'est Les Sous-doués passent le bac.
Non plus, ça va se voir, pas n'importe quoi. Bon.
Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta, le journal de 6h02.
Céline Kalman. Il est 5h58, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Et aujourd'hui, chaleur.
Oui, c'est vrai qu'il va faire chaud cet après-midi. 26 à 34 degrés, à part dans le nord-ouest, où on a un passage pluvieux et orageux dès ce matin. Là, la moyenne sera un petit peu plus basse, 18 à 23 degrés. Notez que demain, après ce passage orageux, les températures vont repartir à la baisse. 29 à Paris cet après-midi, il en fera 18 demain. Des orages pour le nord-ouest, dès ce matin pour le Cotentin, les Pays de la Loire. Et puis cet après-midi, ils vont se décaler un petit peu ces orages vers la région centre, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Ils pourront être violents avec de la grêle et de bonnes rafales de vent. Pour les autres, encore du soleil.
Merci Céline.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.